explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ?
Mais croyez-vous que je puisse regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je fais point.
Daniel Fievé.
On s'en aperçoit tous les jours en lisant les messages que vous nous envoyez. Il est impossible de faire l'unanimité en matière de musique. Il y a les auditeurs qui aiment la programmation musicale, ceux qui, disons, apprécient un peu moins, ceux qui considèrent que la musique n'a pas de toute façon sa place dans notre émission, ceux qui, au contraire, nous écrivent uniquement pour connaître le titre des morceaux diffusés, semblant n'avoir retenu que ça. Pas facile de se mettre d'accord sur ce qu'est la bonne musique et sur la place qu'elle doit occuper. Si l'on confiait à un ethnomusicologue le soin d'étudier les goûts et les représentations musicales de la tribu des auditeurs de France Inter, il y aurait du travail, surtout si on inclut à l'étude les animateurs et les programmateurs de la station. Il aurait du travail, cet ethnologue, mais peut-être un peu moins tout de même que ceux qui partent à l'autre bout du monde pour essayer de comprendre ce qu'est la musique et la place qu'elle occupe dans d'autres cultures que la leur. Ouvrez grand vos oreilles, aujourd'hui nous partons avec un ethnomusicologue à la découverte des musiques d'ailleurs et des multiples pouvoirs et vertus que certains leur prêtent.
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter.
Parfait, alors si ça vous dit de faire un tour, allez-y.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Victor Alexandre Stoichita.
Bonjour Daniel.
Vous êtes ethnomusicologue au CNRS, anthropologue spécialisé dans l'étude des interactions musicales. Vous avez écrit « Fabricant d'émotions, musique et malice dans un village tzigane de Roumanie » édité par la Société d'ethnologie. Et donc vous allez nous faire découvrir le métier d'ethnomusicologue et puis vous nous parlerez entre autres des études que vous avez réalisées sur la musique tzigane. Les auditeurs peuvent vous adresser une question en passant par la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Et puis à 17h, nous nous lancerons dans une grande traversée des États-Unis sur les pas d'une figure emblématique de la Beat Generation, Jack Kerouac. Voilà pour les découvertes du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay et préparée par Sophie Vaux, Mathieu Aoued, avec l'aide de Cyrielle Laborde.
Herr Mozart, pas mal du tout. Ah oui, incontestable cela. C'est excellent. Vous avez donné là un opéra tout à fait nouveau ce soir.
Alors, vous avez été conquis, vous avez vraiment aimé, sire.
C'est certain, j'ai adoré, c'est mieux que tout. Encore que, n'est-ce pas, il va de soi que ça et là, je dis ça et là, il y a, me semble-t-il, un zeste de... Ah, comment dire, un peu trop de notes, votre majesté. C'est cela, très bonne formule. Un peu trop de notes.
Je suis désorienté. Il y a ce qu'il faut comme notes, majesté, le nombre idéal, ni plus ni moins.
Mon bon ami, sachez que c'est un fait de la nature. L'oreille humaine n'enregistre qu'une certaine quantité de notes en une seule soirée. Je crois que sur ce point, j'ai raison, non? Qu'en dites-vous, compositeur?
Oui. Oui. Oui, en somme, oui, majesté.
Mais c'est absurde.
Élaguez un peu et l'ensemble sera parfait.
Pas facile de se comprendre quand on parle musique, même quand on appartient à la même époque et à la même culture. Là, le dialogue était entre Mozart et l'empereur Joseph II. Ça peut être encore plus difficile quand on s'intéresse à la musique d'autres cultures. Victor Stoichita, c'est tout l'enjeu des travaux que vous menez en tant qu'anthropologue, ethnomusicologue. Vous étudiez la musique dans divers endroits du monde et votre mission, c'est avant tout de comprendre qu'est-ce que la musique pour les populations auxquelles vous rendez visite.
Oui. Ça, c'est en fait logiquement une première question, de savoir ce qu'eux, ils considèrent être de la musique, sachant que ce terme n'a pas forcément la même extension que celle qu'il a dans nos sociétés. Il n'existe même pas dans toutes les langues, il n'est pas facilement traduisible. Et donc ça, c'est le premier enjeu.
Alors, la musique n'existe pas dans... Enfin, le terme musique n'existe pas dans toutes les langues. Est-ce que la musique existe dans toutes les cultures, ou est-ce qu'il y a des cultures où on ne fait pas de musique, où on ne chante pas?
Ah. Alors, c'est une très bonne question et sur laquelle on peut avoir deux types d'avis, en fait. Un type d'avis qui est qui part directement de la manière dont dont les gens regroupent leurs activités sonores dans différentes sociétés, eh bien on constate que finalement dans beaucoup de sociétés dans le monde, les gens ne groupent pas ensemble des activités sonores que nous aurions envie d'appeler musique. Ils mettent par exemple des jeux de gorge, des jeux qu'on peut faire vocalement dans la catégorie des jeux, au même titre que les jeux de ballon ou que les jeux de cartes, et des chants chamaniques qui ont vocation à guérir dans la catégorie des pratiques de guérison. Et il ne leur viendrait pas à l'idée que les jeux de gorge et les chants chamaniques devraient être dans la même catégorie sous prétexte que tout ça se fait avec la gorge et que tout ça est sonore. Ouais. Donc ça, c'est une manière de répondre à votre question. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'ethnomusicologues et de neuroscientifiques qui pensent que la musique est, au fond, une capacité humaine partagée, au même titre que le langage. Ouais. Et là, il faut bien sûr, arriver à en déterminer les traits.
Mais il y a donc une notion de construction culturelle dans ce terme de musique, c'est ce que vous nous dites, c'est protéiforme.
Assez clairement, oui.
Alors, on va donner des exemples de ce que peut être la musique ailleurs, par exemple, chez les kurdophones yézidis, c'est en Arménie. Alors, la musique se définit de façon différente de chez nous, c'est-à-dire, là, on va entendre quelque chose qu'ils considéraient comme un chant, une musique. Alors là, on est, nous, ça ressemble à une musique, c'est plutôt joyeux, on est assez d'accord avec eux, même si on sent que ça ne vient pas complètement de chez nous, on est assez d'accord sur le fait qu'il s'agit de musique.
Absolument, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de doutes là. Ouais. Absolument.
Mais alors, là où ça devient plus subtil, c'est qu'il y a d'autres choses qu'ils pratiquent, qui sont qui seraient aussi des chants pour nous, et eux ne les mettent pas dans la même catégorie.
Exactement. Alors c'est quelque chose sur lequel a travaillé Estelle Ami de la Bretèque, donc je m'appuie sur ses travaux pour expliquer cela. Mais en gros, ce qu'on vient d'entendre, c'est un strane, un chant. Et il est mesuré, vous avez entendu, il y a une pulsation, assez clairement. Les paroles comptent assez peu, en fait, pour les yézidis, ces deux paroles-là, ça parle d'un pâturage vert et d'une jolie fille, mais ça pourrait être n'importe quoi. C'est associé à la fête, c'est associé à la joie. Et donc, c'est un chant. Maintenant, il y a d'autres choses que nous, on aurait envie de nommer des chants, parce que c'est chanté également, et parfois même accompagné par des instruments, mais qui, pour les yézidis d'Arménie, rentrent dans la catégorie de la parole, parce que ce sont des récits. Là, du coup, le sens des paroles est très important, et on n'est plus du tout dans la joie, on est dans des émotions plutôt tristes, lors de la nostalgie, de la peine, et les yézidis disent qu'en fait, pour ces émotions-là, on ne peut pas les mettre en musique, en fait. La musique, c'est pour les choses joyeuses, c'est pour faire la fête. Pour le reste, on parle. Ouais. Simplement, il y a différentes manières de parler. Il y a parler comme on le fait actuellement, et puis il y a parler d'une certaine manière, donc dire des paroles sur le héros, par exemple, ou des paroles sur les morts. Tous les héros étant morts, voilà. Donc ça fait une catégorie où les lamentations et les chants épiques se regroupent, mais qui est du côté de la parole.
Donc pour les yézidis, ceci n'est pas de la musique. Donc là, pour nous, on aurait parlé d'un chant joyeux et d'un chant triste. Pour eux, ce sont deux choses complètement différentes, ce qu'on vient d'entendre.
Absolument. Absolument. C'est-à-dire que l'un est dans le domaine de la musique et du chant, et l'autre est du côté de la parole. Donc c'est dire des paroles sur le héros, en l'occurrence. Klam, c'est Meranie. Klam, ce sont des paroles. On dit des paroles sur le héros. Alors on peut les dire Au fond, on pourrait raconter, ça c'est une épopée donc, que le chanteur, que l'énonciateur raconte. Alors on pourrait la dire, on pourrait vous raconter l'épopée de cette manière-là, mais très souvent, en fait, la voix prend une tournure un peu particulière. Là, en l'occurrence, dans cet enregistrement, on entend aussi un hautbois doudouk qui lui aussi dit des paroles, c'est-à-dire qu'il ne joue pas de la musique, le doudouk parle. Tout cela rentre dans la catégorie de la parole pour les Yézidis. Oui.
Allez, autre exemple, nous partons cette fois dans la forêt centrafricaine. Alors là, nous sommes chez les Pygmées. C'est un chant. Vous pouvez nous préciser un peu ce qu'on entend.
Je n'ai pas travaillé sur cette aire géographique. Donc c'est un chant ce qu'on pourrait entendre peut-être si l'extrait était plus long, mais ou si c'est un autre extrait. Il y a parfois une ambiguïté chez ça a été étudié notamment chez les Pygmées Aka par Sima Aron mais aussi par Gilbert Rouget sur certaines pratiques vocales proches du yodel. Ouais. C'est du yodel en fait.
Et comme dans le Tyrol, comme ce que font les Tyroliens. Hein,
absolument, c'est la même technique vocale, voilà, et qui est tantôt considérée, qui rentre tantôt comme une pratique musicale lorsque ça se passe au village et avec une pulsation là encore régulière, et tantôt c'est une technique de chasse parce qu'on peut utiliser en fait des cris yodelés dans la forêt comme une technique de chasse qui n'est du coup pas considérée comme de la musique.
Un dernier exemple assez spectaculaire, on file cette fois-ci dans le Grand Nord chez les Inuits. C'est déroutant, mais ça vocalise, il y a du rythme, ça s'apparente à de la musique quand même.
Absolument.
En tout cas pour nous on le mettrait dans de la musique.
Alors il faut peut-être expliquer déjà comment ça se passe, parce que c'est pas forcément évident à décoder. Donc c'est deux femmes qui se font face très proches l'une de l'autre, avec leur bouche qui se touche presque, et qui alternent des sons. Donc ça fait un flux un peu continu comme ça s'appelle le katajak. Et la description la plus concise, la traduction la plus proche, c'est un jeu de gorge. Jean-Jacques Nattier est un ethnomusicologue qui a travaillé là-dessus. Ces jeux de gorge, ce sont des jeux en premier lieu. Oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont des jeux, et dans la même population, il y a des chants chamaniques qui visent à guérir, mais il ne viendrait à l'idée de personne, enfin ça paraîtrait assez étrange de mettre ces jeux de gorge là, qui sont vraiment, c'est pour passer le temps en fait, c'est pour passer le temps, pour s'amuser, une sorte de défi comme ça, une sorte de joute sonore. Il ne viendrait à personne l'idée de mettre ces jeux de gorge dans la même catégorie que les pratiques thérapeutiques. Même si elles peuvent être sonores, elles aussi.
Ouais. Alors là, on a fait un petit aperçu, évidemment pas exhaustif, de formes, de musique, en tout cas de ce qui pourrait être pour nous de la musique dans d'autres populations, dans d'autres peuples. Vous vous êtes intéressé, alors c'est moins loin, hein, mais c'est tout aussi passionnant, c'est en Roumanie. Vous vous êtes intéressé à la musique tzigane. Pourquoi votre choix s'est porté sur cette population-là?
Un concours de circonstances et de rencontres, comme souvent en fait. Pourquoi est-ce qu'un ethnomusicologue choisit un terrain plutôt qu'un autre? Alors parfois on décide qu'on va aller étudier telle musique, parfois parce qu'on l'aime beaucoup, parfois parce qu'on n'y comprend rien. Il y a les deux parcours existent.
Et vous, dans votre cas?
Dans mon cas, j'avais l'impression de comprendre un petit peu ces musiques-là. Et après, il y a des rencontres aussi. Une des choses qui est très importante dans notre travail, c'est le terrain, ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire un séjour assez long dans la population avec laquelle on travaille. C'est pas uniquement un choix en fonction de la musique qui nous intéresse, c'est aussi un choix en fonction des rencontres que l'on fait concrètement, qui permettent de rester à un endroit et d'avoir des bonnes relations.
C'est le travail à chaque fois chez tous les ethnologues, aussi bien ethnomusicologues que ethnologues plus généralement, c'est l'étude de terrain, c'est toujours gagner la confiance, réussir à obtenir des réponses qui soient pas formatées, qui soient sincères. Il faut rester longtemps sur place. Alors vous avez mis en place, je crois, en Roumanie. Après, vous êtes fait accepter du village dans lequel vous aviez décidé de faire vos travaux. Vous aviez une voiture et vous avez décidé d'être un peu le chauffeur de la population. Vous vous êtes fait taxi gratuit et c'était l'occasion pour vous de faire écouter des musiques, vous aviez des cassettes à l'époque hein, dans l'autoradio, puis de voir les réactions, de faire parler la population sur ces musiques.
Oui, alors ça c'était à Zecheprejin, c'est un village en Moldavie, dans la plaine moldave, où j'ai séjourné assez longtemps. Enfin, j'ai fait des séjours. En gros, j'ai passé un an et demi sur place en plusieurs étapes. Et à l'époque, oui, j'avais une des quatre voitures qui fonctionnait dans le village. Le village est à une heure de route, de route un peu chaotante de la grande ville. Et donc, quand les gens avaient besoin d'aller à la ville, je m'offrais pour les y conduire. Et avec l'autoradio dans la voiture, donc on avait une heure à tuer, et c'est extrêmement pratique comme situation pour discuter, voilà. Je pense que il y a là, du coup, c'est le genre de discussion qu'on n'aurait pas si j'allais chez les gens avec les mêmes cassettes et je leur demandais qu'est-ce que tu penses de telle et telle musique. Ça permettait de savoir un peu, mais moi non plus, je n'avais pas une intention forcément très claire. Je choisissais des cassettes et des morceaux qui semblaient intéressants. Je voulais bien avoir leur avis, voilà.
Ouais.
Tous les anthropologues, tous les ethnologues, les ethnomusicologues ont essayé de trouver une place, une place qui fasse sens par rapport dans la société où qu'ils étudient. On n'arrive jamais directement juste pour recueillir des informations. Donc, dans mon cas, ça a été ça. Je fais un peu le taxi gratuit. Mais puis
oui.
Bon, voilà.
Tout le monde y gagne finalement. Vous allez nous raconter dans un instant le travail que vous avez fait donc en Roumanie et ce que vous avez appris sur la musique tzigane. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
A howling wind is whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. Death car. Truly, in the death car, we're
In the Death Car, c'était Iggy Pop sur France Inter. Musique traditionnelle tzigane, nous arrivons donc en Roumanie avec notre invité ethnomusicologue Victor Alexandre Stoichita. Ces musiques sont-elles encore beaucoup écoutées en Roumanie ?
Alors cet enregistrement-là qu'on a entendu, l'enregistrement lui-même, je pense pas qu'il soit beaucoup écouté en Roumanie. Le style se pratique encore un peu. Il a un petit peu perdu de vitesse par rapport aux années 70 quand ça a été enregistré. C'était un style qui se jouait dans les faubourgs des grandes villes. Ce qu'on appelait la Mahala, c'est cet endroit où la ville devient un peu campagne, c'est un entre-deux, voilà, comme ça. Et là, il y avait des tavernes où les gens riches, les gens aisés de la ville sortaient, et des musiciens, souvent tziganes, arrivaient, et ils leur jouaient des chansons un peu tristes, pour voir, nostalgiques. Donc c'est ça qu'on a entendu là. La Mahala n'est plus ce qu'elle était. Mmh. Voilà.
On va entendre un peu la voix quand même de cette chanteuse. Et mon invité, Victor Alexandre Stoichita, me précise, c'est un homme, donc c'est la voix de ce chanteur que nous écoutons actuellement. Alors, si on écoute moins ça actuellement en Roumanie, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, Victor Alexandre Stoichita ?
Bon, les gens écoutent toutes sortes de choses. Si on s'en tient, disons, aux musiques de fête ou aux musiques de taverne, tout est un peu dans le prolongement de ce qu'on écoutait avant. Ce qui a changé beaucoup, d'une part, ce sont les instruments. Donc maintenant, en règle générale, les musiciens professionnels jouent amplifiés. Et il y a aussi certains styles qui sont apparus plus récemment, enfin, qui se sont développés plus récemment après la chute du régime communiste. L'un d'entre eux, c'est celui qu'on appelle la manea, qui est devenu extrêmement populaire dans les années 90, mais qui existait aussi un petit peu avant. Et pour le reste, disons que la musique, les grandes catégories de musique que l'on joue dans un mariage ou dans une taverne ou dans un enterrement sont un peu les mêmes, mais on les joue un peu différemment.
Oui, alors on préfère aussi aujourd'hui ce que l'on appelle les lotari, c'est ça ? C'est comme ça qu'on prononce ?
Les lotari. Ben, en fait, c'était les lotari, celui qu'on a écouté, Dona Dumitru Siminik, était un lotar aussi. Ouais. Ce qu'on a entendu, ce sont des lotari aussi. Les lotari, c'est le mot qu'on utilise en Roumanie pour dire musicien professionnel. Et en fait, en général, ça veut dire musicien professionnel tzigane. C'est un peu synonyme. Et ce sont des musiciens qui animent contre rémunération des grandes fêtes, comme les mariages, les baptêmes, les enterrements. Et ils ont une façon de jouer qui est, du coup, ils sont embauchés par un commanditaire et ils répondent à la demande. C'est des musiciens, un peu comme les musiciens de bal opérés en France.
Alors, ce qui est un peu étonnant dans ce que vous expliquez, c'est que ils ne se prétendent pas artistes ou ils ne chantent pas pour le plaisir. Ils revendiquent le fait justement de faire de la musique contre rémunération, d'être là pour faire de la musique comme on vend une prestation. Alors qu'en France, les musiciens se targuent. Il y a peu de musiciens, même ceux qu'on voit sur les plateaux, qui chantent, qui sont très connus. Il y en a peu qui disent je fais ça pour gagner de l'argent et c'est pas par plaisir.
Absolument. C'est la chose qui moi m'avait frappé en discutant avec mes amis Léotard, Azetche Prejin, notamment dans le village que je mentionnais tout à l'heure, et puis à Bucarest, c'est cette insistance récurrente sur le fait que nous on joue pas pour le plaisir, on joue pour l'argent, on joue pas pour contre rémunération. Moi j'arrivais un petit peu fleur bleue, avec mes représentations de musiciens occidentaux. Et je trouvais que, pour moi, la musique, c'était une question d'expression, de communication, de partage. Et c'était des mots qui ne faisaient pas vraiment sens pour mes interlocuteurs. Ils me disaient, non, l'art du musicien, c'est de répondre à toutes les demandes. Tu es embauché par un type pour animer un mariage, tu n'as pas forcément le cœur à la fête, il faut quand même que les gens dansent. Tu es embauché pour un enterrement, peut-être que chez toi tout va bien, tu es très gai, etc., mais il faut quand même que les gens pleurent. Et donc, du coup, pour faire face à toutes ces situations, tu ne peux pas t'appuyer juste sur tes sentiments et sur ce que tu as envie de transmettre. Parce que peut-être que t'as pas envie de jouer des musiques tristes, mais il faut quand même jouer des musiques tristes, et non seulement il faut les jouer, il faut les jouer d'une manière qui fasse vraiment pleurer les gens.
Ouais. Donc c'est là où ça devient en fait de la technicité, hein. Ils emploient des termes assez amusants, de ruse, d'entourloupe. Ils sont là dans la manipulation, et pour eux, un bon musicien, c'est quelqu'un qui manipule bien, c'est pas quelqu'un qui est à fleur de peau, qui sait faire passer ses émotions.
Absolument. C'est un aspect sur lequel qui apparaît dans tous les laoutards avec lesquels je me suis entretenu et qui m'avait pas mal intéressé parce qu'il offre un contrepoint. En France, quand on dit d'une musique qu'elle est commerciale, en gros, je peux dire qu'elle est pas bonne.
Quoi. Bah oui,
voilà. Et un musicien, une vedette qui dirait « moi j'ai fait cette musique-là pour gagner beaucoup d'argent », ne serait pas bien vu. Or là, ces musiciens disaient, et y compris à leur commanditaire, avec fierté, mais moi, je suis un vrai musicien commercial. Alors, faut voir ce que ça veut dire, commercial. Oui. C'est pas tout à fait le même réseau économique. Mais, ils revendiquaient cette capacité d'être tout terrain avec la musique, et donc la musique comme une technique. Du coup, à la place de sincérité, émotion, communication, c'est des termes qu'on pourrait retrouver, être à fleur de peau, maîtrise instrumentale, virtuosité, capacité technique et intelligence.
Ouais.
Il disait, un bon musicien, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est pas quelqu'un de sensible nécessairement, mais c'est quelqu'un d'intelligent.
Ouais. Et puis vous employez ces termes de ruse aussi.
De ruse, absolument. Alors la ruse, y a un mot en Roumanie, enfin il y a toute une catégorie de mots en Roumanie autour de la ruse. C'est une notion assez importante dans la culture roumaine. L'un de ces mots, par exemple, schmeckerie, est utilisé pour un tas de choses, Mais les laoutards l'utilisent aussi pour désigner une manière particulière de jouer. C'est-à-dire qu'on peut jouer un morceau avec des schmeckeries. Il y a un style qui est plus schmeckeresque, plus du côté de la schmeckerie qu'un autre. Il y a aussi un autre mot qui s'appelle tchorenier, qui est un petit peu plus vraiment du côté, pas de la ruse, mais cette fois vraiment de la malice, de l'entourloupe, parce que ça viendrait de tchor, ouais, qui est, veut dire le voleur en langue tzigane, ouais, qui donne d'ailleurs chouré en français. C'est le même, ça vient de manouche, le chouré en français. Et c'est donc ce mot-là, mais on dit aussi, on peut jouer avec des tchorenies. Et les musiciens me disaient, mais bon, voilà, là, j'ai fait une tchorenier, c'est-à-dire quelque chose qui va produire un effet très fort sur l'auditeur, mais moi je reste, moi je me mouille pas.
D'accord. Voilà. C'est-à-dire ce phénomène de ruse, hein, ils disent dans un mariage, si je joue une musique joyeuse sans ruse, quelques personnes dansent. Si je mets de la ruse, tout le monde se lève pour danser sur ce genre de musique. Alors là, il y a de la ruse, Victor Alexandre Stoichita.
Ah oui, si on écoute un petit peu. Écoutons un peu. Là, c'est une ruse, par exemple. Ce qu'il a fait là, alors, là, juste à la fin de descendre, cette espèce de descente et de remontée qu'il a placée juste à la fin, il aurait pu ne rien jouer à cet endroit-là. Il aurait pu jouer quelque chose de beaucoup plus simple. Là, en l'occurrence, c'est un morceau, justement, après l'avoir enregistré, je l'ai écouté avec les musiciens, je leur ai demandé, dis-moi, où est-ce qu'il y a
des ruses.
Et la réaction, alors, il y avait... du coup, ils pouvaient très, très clairement et tous pointer les mêmes endroits, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est une mélodie que plein de musiciens peuvent jouer, mais lui, quand il l'a joué, il a fait quelque chose que les autres ne faisaient pas. Tout le monde pointait ces endroits-là. Mais l'autre réaction qu'il y avait dans la pièce, parce qu'on était, tout ça s'est passé dans la cuisine, il y avait plein de monde, donc il y avait les musiciens qui donnaient leur avis autoritaire, un peu comme ça. Puis on avait d'autres, les plus jeunes ou les femmes, qui juste rigolaient à cet endroit-là. C'est-à-dire que ce truc-là de ruse, ça faisait pouffer de rire.
Ouais. Donc ça rajoute de la joie au morceau.
Absolument. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un morceau à danser. Ouais. Et c'est un petit truc, c'est une petite cabriole.
Alors, vous parlez aussi parfois d'ironie musicale avec un genre qui s'est développé en Roumanie, la manéa. Expliquez-nous.
Oui. Alors, la manéa, c'est un genre qui est devenu très populaire dans les années 90. Vous me demandiez tout à l'heure ce qu'on écoute maintenant.
Ouais.
Donc c'est, disons, un genre qui, pour certains, est apparu dans les années 90. Pour d'autres, est le prolongement, mais champignonesque d'un genre qui existait auparavant. Et ce genre-là est très marqué par une idée de modernité et de richesse. C'est une musique qu'on qualifie parfois musique de nouveau riche.
Ouais. Voilà. On se vante de posséder dans les paroles, et même la musique est un peu ostentatoire, on peut le dire comme ça.
Exactement. Tout est assez grandiose. Et après, il y a des gens qui disent, voilà, c'est bien la preuve que les nouveaux riches maintenant nous gouvernent, qu'ils ont pris le pouvoir, que tous les mafieux, c'est une musique de mafieux aussi, un peu comme ça. Parce qu'il y a le personnage qui apparaît dans les paroles. Moi, ce que j'ai pu voir, par contre, en travaillant vraiment sur le terrain dessus, c'est qu'en fait, un tas de gens écoutent et apprécient cette musique-là, sans être particulièrement riches et sans être particulièrement mafieux. Du coup, comment est-ce qu'ils rentrent dans cette musique-là, qui ne les représente pas totalement au premier degré? C'est là où le second degré apparaît. Peut-être cette notion d'ironie peut être utile pour qualifier la manière dont ce large public rentre dans cette musique.
Un exemple de Manéa.
Că n-ai ochii pe stomac, stai mai bine în barca ta, că ești vai de steaua ta. Ce te lauzi acum că ești bogat? Știu că n-ai ochii pe stomac, stai mai bine în barca ta, că ești vai de steaua ta. Dar și dacă mă enervez, mă faci ca să-ți dovedesc că vor la mine banchi și cât un Mercedes.
Alors, vous nous décryptez ce qu'on est en train d'entendre, là?
Là, à l'instant, 50 euros de Austrian pour tout le monde. 50 euros, donc le chanteur est en train d'annoncer au microphone une dédicace, c'est ce qu'il vient de dire. Il y a quelqu'un dans les convives qui est venu avec un billet de 50 euros et qui lui a offert le billet de 50 euros pour tout le monde, et il a rajouté après, et pour tous les Richards. Parce que la chanson dit, et si tu m'énerves, tu me forces à te démontrer que j'ai sur moi, en argent cash, de quoi m'acheter une Mercedes. Tu sais que je suis spécial, tu sais que je suis number one, mais je ne suis pas un vantard parce que ce n'est pas bien. Mmh. Alors, c'est exactement le genre de parole ironique, puisque je ne suis pas vantard. Alors qu'il vient de se vanter. Et la question, c'est donc ça, c'était dans un mariage à Yash, en 2005. C'est Christine Nouka qui chante. Et la question, c'est comment est-ce que les gens rentrent dans cette chanson-là? On pourrait croire que ce n'est pas tout à fait le genre de parole qui est adapté pour une fête familiale, pour un mariage, voilà. Mais en fait, tout le monde danse. Mais certains sont effectivement plus riches que d'autres, comme celui qui arrive avec ses 50 euros. Et donc, différentes manières de rentrer, plus ou moins au premier, au deuxième, au troisième, au dixième degré dans cette musique.
Alors, vous venez de nous expliquer comment les musiciens arrivaient un peu à nous manipuler, à générer des émotions, de la joie ou de l'amusement avec leur musique. Vous vous êtes aussi intéressé aux recherches qui portent sur les prétendus effets et autres pouvoirs que la musique aurait sur notre cerveau et notre physiologie. Nous allons en parler avec vous dans un instant.
Eu sofri sem perdão. Não consegui admitir a situação. Logo o sofrimento se espalhou. Eu fiquei mergulhado em desamor. Eu sofri sem perdão. Não consegui admitir a situação. Me vejo nessa sentença pendenga de desamor. Eu faltei com você e nada chegou. Um belo dia, pensava que tava escrito. Era eu pra ela, ela pra mim, isso tá bonito. Esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa. Toda a verdade veio na minha calçada. Eu sofri, sem perdão. Não consegui admitir a situação. Logo o sofrimento se espalhou. Eu fiquei mergulhado em desamor. Eu sofri, sem perdão. Não consegui admitir a situação. Me vejo nessa sentença, pendenga de desamor. Eu faltei com você e nada chegou. Um belo dia, pensava que tava escrito. Eu pra ela, ela pra mim, isso tá bonito. Esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Eu sofri
sem perdão. A situação. Logo o sofrimento se espalhou.
dia, pensava que tava escrito. Era eu pra ela, ela pra mim, isso tá bonito. Esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Eu sofri.
Un petit détour par l'Amérique du Sud, c'était Calçada, chanté par le brésilien Criollo sur France Inter.
Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme si, comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citron pâle, ce n'est pas un orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Au 17. Hop. Alors.
Louis de Funès en chef d'orchestre dans La Grande Vadrouille. Alors la musique, ça suscite des émotions, on l'a dit, ça peut même mettre en colère, la preuve avec Louis de Funès. Enfin lui, beaucoup de choses le mettaient en colère. Victor Alexandre Stoichita, vous êtes ethnomusicologue au CNRS et vous nous faites un peu découvrir le métier d'ethnomusicologue. Vous vous êtes aussi intéressé, vous nous l'avez dit, chez les Tziganes, à ce que vous appelez la fabrique des émotions. On dit souvent que la musique a une capacité à générer des émotions. Qu'est-ce qu'on sait de cela et est-ce que dans tous les pays dans le monde, on se sert de la musique pour générer des émotions ?
Alors, c'est une question complexe. Donc d'abord il y a la complexité, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la musique, la définir dans tous les pays, à certains enjeux. L'émotion, c'est un peu la même chose en fait. Savoir si par exemple lorsque vous avez envie de danser, si c'est une émotion qui vous saisit ou autre chose, c'est une question qui est difficile à trancher. Et il y a des recherches du côté des neurosciences et des sciences cognitives qui tendent à dire que la musique est intimement, vraiment très intimement liée aux émotions. Le plaisir musical est un plaisir lié aux émotions. Voilà. Après, il y a aussi dans les travaux des ethnomusicologues et des anthropologues, on voit que parfois des musiques peuvent être conçues de manière très très éloignée de ce qu'on nommerait émotion. Donc par exemple pas une émotion individuelle, mais plutôt un état d'apaisement général, d'éloignement de l'émotion justement. Ouais. C'est ce qu'on pourrait rechercher dans des musiques, dans le gamelan javanais par exemple, une émotion au mieux collective, mais peut-être le mot lui-même ne convient pas. Donc c'est une question qui est là encore débattu. Mmh.
Voilà. Là aussi, la question de savoir si la musique a un effet, mais alors là, de l'ordre physiologique, entre en résonance avec notre corps. Là aussi, beaucoup d'études. Alors, ce ne sont pas des études que vous avez menées, mais vous avez regardé toutes ces études. Vous avez écrit des articles, notamment dans la revue, dans The Conversation, le site internet, ou aussi sur la revue Terrain pour laquelle vous travaillez. Alors, où on en est de cette idée que la musique interagit, entre en résonance avec notre corps?
Cette idée, donc pour la revue Terrain, c'était un numéro sur l'emprise des sons, sur toutes les théories qui disent que les sons peuvent avoir une efficacité directe sur le corps. Une efficacité tantôt positive, thérapeutique, tantôt négative, plutôt pathogène, parce qu'il y a les deux en fait. Mmh. À partir du moment où on dit que la musique est efficace et qu'elle nous fait du bien, logiquement... il y a aussi des craintes liées à la mauvaise utilisation de cette capacité thérapeutique et on les trouve effectivement dans de nombreuses sociétés.
On verra les aspects négatifs un peu plus tard dans l'émission. Voilà. Voyons déjà le positif.
Le positif. Il y a beaucoup de sociétés, on trouve cette idée que la musique ou les sons peuvent agir sur la santé. Voilà. Et c'est une idée où la musique joue le rôle un petit peu vraiment d'un médicament, c'est-à-dire d'un principe actif, un peu comme un antibiotique, on vous l'administre et après ça agit tout seul. En regard de cela, des ethnomusicologues, les anthropologues mettraient l'idée que le parcours, le cheminement de l'auditeur est très important aussi. Mais on s'en rend moins compte, disons que c'est moins conscient, qu'il nous faut faire, en fait, lorsqu'on est confronté à une musique, on fait soi-même tout un cheminement, tout un parcours en fonction d'un vécu.
Alors, pour donner un exemple, par exemple, souvent on utilise la musique pour faire entrer en transe une personne. Quand vous nous dites il y a un chemin à faire dans les deux sens, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas envie de rentrer en transe ne se laissera pas emporter par une musique et ne lâchera pas prise.
Le cas de la transe est assez intéressant et assez bien étudié aussi parce qu'il a beaucoup, il est assez emblématique. Donc on a d'un côté des gens qui un discours dans différentes sociétés qui dit voilà telle musique ça provoque l'apparition de telle divinité qui va s'incarner dans telle personne. Et c'est la musique qui le fait, parce que la divinité arrive par la musique. On a ce type de discours très clair. En regard, on voit que la musique n'affecte pas tout le monde, déjà. Dans la situation, il y a
on
des gens qui rentrent...
On n'est pas tous réceptifs de la même manière.
Il y a 100 personnes qui regardent le rituel, il y en a une qui rentre en transe. Et même la même musique, en dehors du cadre rituel, qui comporte en général beaucoup d'autres choses, qui comporte de l'encens, qui comporte des offrandes, qui comporte tout un cadre préparé, eh bien, la même musique ne fait pas forcément l'effet. Donc, on ne peut pas attribuer clairement au son ou à certaines propriétés sonores. On a essayé pendant longtemps de trouver que certains rythmes ou le vacarme, le volume sonore ou telle fréquence produisait tels effets cérébraux du type de la transe. Eh bien, ça, on ne les a pas trouvés. Par contre, il est clair que dans certaines situations sociales déterminées pour certaines personnes, la musique leur permet d'aller beaucoup plus loin émotionnellement et donc jusqu'à ces états de transe que ce qu'elles pourraient faire sans cet appui.
Alors, pour les états de transe, il y a par exemple les Baloutches du Marcan. C'est au sud de l'Iran et du Pakistan. Ils pratiquent un rituel de guérison par la transe. Ça passe par la musique.
Oui, ça s'appelle le Gwati Damali. Jean Düring a travaillé sur ces questions. Il a un très bel article dans le numéro de Terrain, numéro 68, sur l'emprise des sons. Il montre aussi déjà l'ambiguïté de savoir si c'est le djinn qui agit. Donc c'est un rituel où des djinns ou bien des vents, des guati, des vents venus d'Afrique, les gens disent qu'ils s'incarnent dans, qui tourmentent d'abord des gens, et après on organise un rituel pour que ces esprits cessent de les tourmenter, donc pour qu'ils s'incarnent pour de bon, et on demande à l'esprit qu'est-ce qu'il veut, et on essaie de pacifier la relation. Et la musique, pour certains, la musique dans ce contexte joue le rôle d'attracteur pour l'esprit en question. Ça va l'attirer dans le corps du patient. Pour d'autres, c'est vraiment elle qui fait tout. C'est-à-dire que l'esprit n'existe même pas, en fait. C'est une fiction, mais le pouvoir de la musique, lui, est très fort.
Alors, on va l'écouter, mais je crois que vous vouliez nous donner quelques précisions avant qu'on écoute, pour qu'on écoute ce qu'il faut.
C'est une musique un peu surprenante quand on vient aux musiques de trance, parce que déjà, je pense pour beaucoup de gens, la musique de trance est forcément quelque chose de très rythmé, avec un tambour et très, très fort. Là, il n'y a pas du tout de percussion. Il y a deux instruments, un luth et une vielle, soroud, et des chants. Et ce qu'on peut essayer d'écouter, c'est... Il y a une ambiguïté rythmique assez forte, c'est-à-dire si on essaie de taper la pulsation, simplement de taper du pied, ça balance. S'il y a une ambiguïté, il y a un groove comme ça et qui change à un moment donné dans le morceau. Et ça, c'est le genre d'ambiguïté, le genre. On ne sait pas si c'est à deux temps ou à trois temps. C'est le genre de fausse qui peut représenter dans certains, qu'on retrouve dans plein de musiques dans le monde qui sont pas du tout liées à la possession, mais qui dans ces musiques là on arrive à représenter différents plans de réalité.
Alors on écoute et on essaye de saisir l'ambiguïté rythmique. Alors, ce que vous appelez ambiguïté rythmique, c'est cette espèce d'impression qu'on tombe un peu à contre-temps parfois.
Oui. Alors déjà, il y a le fait que si on écoute le morceau, un auditeur occidental aurait tendance à mettre la pulsation là où est le temps fort. Est-ce qu'on peut l'écouter un petit peu plus fort ? Il aurait tendance à mettre le temps fort là. En fait, pour les Baloutches, d'après Jean Düring, c'est pas là qu'on le met. On le met plutôt là. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, là, ce qui se passe, juste un peu plus loin dans le morceau, c'est le moment qui arrive en fait maintenant, en arrière-fond. Là, il y a un basculement où on ne sait plus très bien si la structure est ternaire, si ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou si c'est plutôt une structure à 4 temps. Et ça, c'est là qu'il y a des ambiguïtés. Encore une fois, c'est des choses qu'on retrouve qui sont pas... On peut pas dire que c'est ça qui met les gens en transe, mais oui, c'est quelque chose. Cette ambiguïté-là a été relevée aussi pour la musique des Gnawa, pour le Stambeli, pour la musique des pour le Vimbusa, des Tumbuka du Malawi. Beaucoup de musiques qui sont liées à la possession ont quelque chose avec des ambiguïtés à un niveau ou à un autre.
Alors que ce sont des populations qui ne se connaissent pas forcément, qui ne se sont pas influencées, mais qui individuellement, séparément, ont développé le même genre de procédés, là encore.
Voilà, là, il y a une hypothèse. C'est une hypothèse qu'il y a certains procédés musicaux qui permettent, non pas forcément de mettre directement les gens en transe, mais de les mettre dans un état propice, de leur faire lâcher prise. L'idée, c'est qu'une fois que les gens lâchent prise, la divinité peut s'incarner, peut grandir en eux. Et pour leur faire lâcher prise, il y a des trucs, encore, des astuces, des choses musicales, mais qui marchent aussi pour les mélomanes, au fond. Et ça, il y a des travaux aussi en ce sens qui montrent que la réaction des mélomanes occidentaux, donc la chair de poule, les larmes, les frissons que vous pouvez éprouver quand vous écoutez un requiem, par exemple, ben en fait, c'est pas forcément très différent de ce qu'éprouvent les gens qui rentrent dans des transes de possession, que c'est le même mécanisme neuronal.
Ah. Et alors, on a aussi, mais là de façon, on va dire, plus méthodique, plus scientifique, essayé de voir comment le rythme d'une musique pouvait avoir une influence sur les battements cardiaques d'une personne. Et là, il semblerait que si on écoute une musique avec une pulsation plus forte, notre cœur s'emballe un peu, suit un peu le rythme.
Alors ça, c'est une théorie qui est très tenace, disons, dans notre qui est très tenace parce que elle date, elle a des siècles d'histoire dans notre civilisation. Mais les validations expérimentales sont en fait assez difficiles à trouver. On arrive parfois, dans certaines circonstances, à montrer que, par exemple, quand vous écoutez la musique de Vivaldi avec un tempo relativement rapide, ben votre cœur bat plus vite qu'un raga indien.
La voilà, la musique de Vivaldi avec le tempo un peu rapide. On l'a piqué à Jean Lebrun, à son générique de son émission sur l'histoire. Ça veut dire que, selon cette théorie, à chaque fois que Jean Lebrun arrive à l'antenne avec ce générique, notre cœur se met à battre un peu plus vite.
Oui, et peut-être même qu'il l'a fait exprès et que quelqu'un a utilisé
cette
propriété
de la musique. Il n'a pas besoin de ça. Quand on le croise dans les couloirs, Jean Lebrun, déjà le cœur s'accélère.
Voilà. Mais disons que sur cette base-là, on peut construire toutes sortes de théories. Après, en fait, les validations expérimentales sont quand même assez difficiles à obtenir. Il y a énormément de contre-exemples, ce qui fait que, d'un point de vue strictement scientifique, c'est une théorie qui est discutable. Mais par contre, son importance dans l'imaginaire, et notamment dans les musiques occidentales, est très forte. Oui.
La musique peut aussi avoir des effets négatifs, vous nous le disiez, et nous allons en parler juste après un peu de musique qui aura, je l'espère, un effet positif sur vous.
Il fait si chaud, ça va me hanter chaque instant.
C'était Blondie, minuit sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Ce refrain du groupe Queen, Donald Vance, l'a subi en boucle 20h sur 24 dans une cellule glaciale de 4 mètres carrés à Camp Cropper en Irak, des mois durant.
C'est de la torture. Cela ne fait aucun doute dans mon esprit. C'est de la torture.
Donald Vance était accusé de vente d'armes à des insurgés alors qu'il travaillait pour l'armée américaine. Autre détenu, cette fois à Guantanamo.
Cela vous donne l'impression que vous allez devenir fou. Vous savez, vous pétez les plombs. C'est effrayant de penser que vous pourriez devenir fou à cause de la musique, à cause du bruit. Après un moment, vous n'entendez plus les paroles, juste martèlement.
ACDC, Prince, Bruce Springsteen ou encore Eminem semblent avoir les faveurs de l'armée américaine. La pratique s'est banalisée en Irak, en Afghanistan et à Guantanamo. Selon le FBI, 4 jours d'un tel régime, 16 heures ininterrompues de musique suivies de 4 heures de silence, viendraient à bout de la résistance psychologique d'un prisonnier.
Extrait d'un reportage du Soir 3 diffusé en 2003 sur France 3. On a torturé avec la musique Victor Alexandre Stoichita.
Absolument, oui. Le reportage le résume très bien. Oui, ça a fait partie des techniques d'interrogatoire renforcé, avec des guillemets, c'est comme ça qu'elle s'appelait, autorisées, légales dans l'armée américaine. Donc des techniques d'interrogatoire qui consistaient à faire entendre en boucle de la musique, en général la même chanson. Pendant un très long laps de temps et un très fort volume, comme technique d'interrogatoire. Ouais.
Mais alors, ce sont des tests ou ce sont des choses qui, vraiment, c'est prouvé qu'on peut faire du mal aux gens avec la musique. Parce qu'on a toujours cette idée que la musique nous veut du bien, que la musique adoucit les mœurs. Et là, on s'en sert comme instrument de torture.
Bon, là, les gens, notamment les gens qui témoignent, ils le disent bien. Oui, ça leur a fait du mal. Quoi. C'est très clair. Mais peut-être pas pour les raisons. Après, les raisons pour lesquelles les GI utilisaient certaines musiques plutôt que d'autres. Disons, ce qui fait du mal, clairement, c'est par exemple la privation sensorielle, la privation de sommeil. Oui. Donc le fait d'empêcher les gens de dormir.
On les aurait empêchés de dormir avec un film ou avec une sirène d'alarme, ça aurait eu le même effet qu'avec un morceau de musique.
Absolument. Les travaux à ce sujet, et il y a notamment les travaux de Juliette Faulkner qui a fait un travail d'historienne autour de l'histoire de cette notion, montrent clairement que avec un bruit de pâle d'hélicoptère, ça marche pareil. Ouais. Mais on met plutôt de la musique parce qu'on attribue à la musique, et là les GI sont en fait, dans cette pensée magique qui, où on était aussi tout à l'heure avec les battements cardiaques, on attribue à la musique certaines propriétés qui auraient donc le pouvoir de briser les détenus. Certaines musiques auraient plus de cette capacité-là que d'autres.
Alors, le pouvoir de briser les détenus ou de donner un peu de la vigueur aux soldats. Là, c'est Paul qui vous envoie cette question par Internet. On dit que certains soldats américains écoutent de la musique métal pour se préparer au combat. Est-ce que ce genre de musique peut stimuler l'agressivité?
D'après les soldats, oui. Donc, c'est effectivement il y a des témoignages et Jonathan Pieslak a fait un très beau livre là-dessus sur les playlists des soldats en Irak et en Afghanistan. Et ce qui est curieux, c'est que souvent, ils écoutent les mêmes musiques que celles qui servent à la torture des détenus. C'est-à-dire qu'il y a une porosité entre les usages récréatifs et punitifs de la musique, qui est une chose assez intéressante et assez intrigante à étudier. Ouais.
Marie, deuxième question d'auditeur, d'auditrice, qui vous demande, retrouve-t-on ces concepts de ruse dont vous nous parliez pour la musique tzigane, ces concepts de ruse et malice dans d'autres pays ou est-ce spécifique aux musiques tziganes?
Alors, je pense qu'on les retrouve dans d'autres pays, donc c'est pas du tout systématique, mais on les retrouve, on retrouve l'idée de ruse, donc de jouer avec des ruses dans d'autres pays. En général, la situation de musicien professionnel, donc de devoir répondre à une demande, vous place forcément dans une situation où il faut que vous produisiez de l'effet sur l'autre sans forcément ressentir vous-même cet effet-là. Après, le vocabulaire change d'une manière ou d'une autre, mais par exemple, on a écouté tout à l'heure de la musique brésilienne, la notion brésilienne de mandinga, qui est importante dans certains mouvements culturels, est tout à fait similaire à celle de la schmeckerie en Roumanie.
Merci Victor Stoichita, Victor Alexandre Stoichita. On parlait de la revue Terrain, si des gens ont envie d'en savoir plus, de la consulter, elle est en ligne
sur
Internet.
Elle est en ligne absolument, sur openrevue.org, le numéro de Terrain, numéro 68, porte sur l'emprise des sons.
Et donc on va mettre ça en ligne sur la page de l'émission pour ceux qui voudraient consulter cette revue Terrain pour en savoir plus. Un grand merci à vous Victor Stoichita.
Merci à vous Daniel.
Je vous présente l'invité de la deuxième heure, Jean-François Duval. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et journaliste et avec vous, nous allons partir sur les pas d'un écrivain devenu une figure emblématique de la Beat Generation, Jack Kerouac. Jack Kerouac qui adorait le jazz. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler dans la suite de cette émission avec vous, Jean-François Duval.